Bonjour, bienvenue sur le podcast de la cabane au Canada. Il s'agit du volume 132 et nous sommes aujourd'hui le samedi 17 novembre 2007. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'enregistre ce PCC en ce tout début de week-end et non pas le vendredi soir comme d'habitude. Donc sans plus tarder, on y va avec le sommaire qui va être assez chargé. Alors, on va avoir toute une série de news avec des affaires de geeks, des histoires de Facebook, des histoires de vidéos. On va parler de podcasting, de course à pied, bref, tout un tas de sujets. Le plat de résistance, ça va être la première partie d'une interview de ma petite personne réalisée par Diane Trudel sur la chaîne de radio Chat FM. Ça avait lieu... dans le courant du mois de septembre. J'ai mis plusieurs semaines avant de récupérer le MP3, mais c'est chose faite. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce PCC culte de la personnalité, puisque vous allez m'entendre parler pendant bien 20-25 minutes. Et encore, estimez-vous heureux parce que j'ai fait des coupures. Et en plus, j'ai coupé ça en deux. Hein. Donc là, on va voir la première partie. Et puis la semaine prochaine, je vous diffuserai la deuxième partie. Là aussi, je ferai probablement des coupures pour alléger un peu. Donc voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Alors, les nouvelles de geek de la semaine. Alors, il y a Poods, encore un gadget de réseau social. Alors, ça s'écrit P2ODZ. Je vous avouerai que je me suis inscrit, puis c'est à peu près tout. Là, j'ai un peu du mal à suivre avec tout ce qui est sorti. Donc, des fois que ça vous a échappé, je vous le dis. Par rapport aux affaires de geek, donc je vous avais parlé de la Fonera que Alain m'a envoyé. D'ailleurs, on est toujours en train d'essayer de la faire transférer sous mon nom. Là, il a récupéré l'adresse MAC l'autre jour, donc c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas fait, je veux dire. Faut croire qu'ils sont pas super vite au niveau du support technique chez Fon. Par contre, je vous recommande très vivement d'aller écouter le Palmipod numéro 36, hein, si vous comprenez rien, comment ça marche, Phone et compagnie, à quoi ça sert. Allez vous abonner à son podcast, il a fait une petite revue, une petite vulgarisation qui est très bien faite, donc je vous encourage vivement à aller écouter ça. Facebook, j'ai créé un groupe à l'intérieur de Facebook qui s'appelle PCC et j'ai même créé un autre groupe, lui cette fois réservé aux podcasteurs, qui s'appelle le GPF, donc le groupement des podcasteurs francophones. En fait, ça avait démarré déjà il y a au moins 2 ans, je crois, sous la forme d'une liste via Yahoo. Ensuite, on avait migré sur un forum web sur l'adresse podcaster.net, podcaster.net. Et puis ça s'était un petit peu arrêté de fonctionner. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Moi, je plaide coupable aussi en partie parce que j'y mettais de moins en moins souvent les pieds. Et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est en fait un reflet du podfading actuel? Est-ce que c'est la multiplication de tous ces outils de communication style Twitter, Facebook et autres Pounce qui fait que bon, on a moins le temps ou l'envie d'aller pointer son navigateur sur un forum web. Peut-être c'est une combinaison de tous ces paramètres-là. Toujours est-il, pour essayer de s'appuyer plus sur les outils web 2.0, j'ai créé un groupe donc, qui s'appelle le groupe du GPF. La seule et unique règle hein, pour adhérer à ce groupe, c'est d'être un podcasteur actif et puis évidemment de causer dans le poste en français, puisque c'est un peu le but. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, si c'est quelque chose qui est viable. Une fois que j'ai eu créé le groupe, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait le podcaster et vidéocaster francophone, un truc comme ça, mais qui lui par contre est ouvert à tous. Alors bon, moi je suis pas trop pour le sectarisme, mais des fois ça peut être intéressant d'être juste entre podcasters, mais bon, là c'est encore, je vous avouerai que c'est vraiment à titre très expérimental que j'ai fait ça. Donc si vous êtes podcaster et que ça vous intéresse de vous joindre à ce groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Facebook, là ça me fera plaisir de vous y accueillir. La seule faiblesse que je trouve à ce système, c'est que, enfin, sauf erreur de ma part, Il n'y a pas moyen à l'intérieur de Facebook de recevoir les notifications s'il y a eu de l'activité dans un groupe, quoi. Ce qui fait que si vous êtes abonné à 12 groupes, eh bien, faut passer à travers des 12 groupes pour voir s'il y a eu de l'action, voir s'il y a eu un, je sais pas quoi, un fichier d'uploader, une photo, j'arrive pas à trouver le mot en français, un nouveau thread de discussion qui est démarré dans le forum. Un nouveau membre, enfin bref, ou alors j'ai pas trouvé, hein, tout simplement, mais ce qui fait que je trouve que ça perd un peu de son utilité. Alors, c'est assez paradoxal parce que y a des, je sais pas combien, des milliers de groupes là, qui existent maintenant dans Facebook, des groupes d'ailleurs qui sont tous plus ou moins farfelus, mais dans l'utilisation, dans la pratique comme outil de communication, à moins d'avoir le réflexe d'y aller régulièrement. Et je trouve bon, c'est pas pourquoi pas, mais ça perd un peu de son intérêt s'il faut justement y aller sans arrêt pour voir si quelqu'un y a déposé ou a démarré une discussion sur un sujet particulier. Donc bon, je le mentionne, voilà, c'est je trouve que fidèle à mon habitude d'essayer un peu dans les différents outils qui sont à disposition. Et comme bon, moi je suis très actif, bah, comme là, comme je suis en train de causer dans le post, très actif, enfin relativement actif à l'intérieur de Twitter, de Facebook. J'essaie de pas complètement exploser toutes mes énergies dans toutes les directions. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le relancer ou essayer de redémarrer le GPF à l'intérieur de Facebook. Donc on va bien voir où est-ce que tout cela nous mène. Alors par rapport au PCC vidéo, donc le spécial iPod, hein, il est en ligne. Comme il fait 180 MB et pour une durée de 40 minutes, j'avais pas la bande passante disponible pour l'héberger chez Libsyn. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à l'intérieur du fil RSS. Donc pour l'écouter, vous pouvez aller soit directement sur l'adresse, le lien que j'ai posté sur le blog, ou alors et pour le télécharger, ou alors vous pouvez le regarder en ligne en allant à l'adresse lepcc.blip.tv, donc le PCC en un seul mot .blip.tv. Donc ça vous permettra de regarder la vidéo. Ceci dit, comme elle fait 40 minutes, je pense que le plus simple c'est encore de la télécharger en faisant un clic droit enregistrer sous pour pouvoir la regarder après tranquillement, parce que ça fait quand même 40 minutes. Donc voilà, je le mentionne dans le podcast, parce que si jamais, comme plusieurs d'entre vous, vous ne suivez le PCC qu'à travers le fil RSS, et puis d'ailleurs c'est probablement la meilleure chose à faire, bah du coup vous n'avez pas vu forcément l'article que j'ai posté à l'intérieur du blog pour indiquer que la vidéo était en ligne et la manière d'aller l'écouter. Voilà, je voulais vous parler de Pod Montréal, donc le rassemblement des podcasteurs de Montréal qui aura lieu le 29 novembre prochain à 19h30, au même endroit que le mois dernier, c'est-à-dire au Sergent Recruteur, au 4801 Saint-Laurent. Et bah c'est ouvert à tous, hein, podcasteur ou pas podcasteur. Et il y aura un thème cette fois, je trouve que c'est une idée assez sympa. Et le thème, c'est les micros. Donc voilà, si vous êtes podcasteur dans le coin, viendez avec vos micros. Moi, je vais amener mon MXL USB.006 pour le montrer. Peut-être j'amènerai mon SM58, mes petits gadgets là de mon iReverb, puis mon petit micro stéréo. Comme ça va être full geek à mort. Donc si ça vous tente de venir voir des podcasteurs en vrai qui discutent de l'autre côté du micro, là, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Ah oui, j'ai préparé un petit. Bah, toujours un peu. Je reviens un peu sur l'histoire de podcaster.net. Donc, c'était un forum web. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment eu des débuts passionnants et passionnés. Et puis, tout d'un coup, c'est retombé. Et comme je disais tout à l'heure, je m'excuse, je fais un peu les choses dans le désordre. Est-ce que c'est. Bon, le fait que beaucoup de podcasteurs soient disparus, enfin, et été victimes du podfading, hein, ça fait 2-3 émissions là, que je rabâche un peu ça. Mais je faisais un peu l'inventaire des podcasteurs là, qui ont un peu disparu, style bah, le podcasteur de Bertrand Lenôtre, donc qui fait du podcast plus que jamais, mais du podcast professionnel, et puis grand bien lui fasse, puisqu'il arrive à en vivre, et c'est très bien, je le félicite. Moi, je regrette juste les émissions qu'il faisait avant, là, et qui étaient. Un caractère plus indépendant, mais par contre, il vit de sa passion et en tant qu'homme de radio, moi je salue ça. Et en plus, Bertrand, moi je l'aime bien. Par contre, il y a Annie de Marseille, hein, qui faisait des melting pods assez rock'n'roll. Je suis allé voir l'autre jour sur son. blog, il y a quasiment rien, il y a rien, je pense, qui a été posté depuis février dernier. Il y a Désiré Belladone, l'incroyable Désiré Belladone, qui faisait Ma Parole, qui était des perles vraiment de montage audio sonore, là, parfois complètement délirant, toujours rigolo, enfin jamais ennuyeux en tout cas. Il a complètement disparu des radars, Désiré. Donc voilà, c'était ma petite séquence séquence émotion. Voilà, on va passer à autre chose maintenant. Et voilà, du coup, comme je ne suis pas dans la bonne fenêtre, la virgule, elle part pas. Alors, on va parler de course à pied, parce que souvent, en rigolant, je dis autour de moi que quand les gens ont des problèmes, il ferait mieux de courir un peu, et puis ça réglerait un peu leurs soucis, parce que finalement, c'est quand même pas mal résumé ce que moi, je pense de la course à pied, parce que non seulement ça apporte des grands bienfaits au niveau physique, mais moi, je sais que ça m'apporte aussi beaucoup au niveau de l'équilibre. Alors, bon, je vous avais dit l'autre jour que mon beau-père m'avait abonné à la revue Jogging, qui s'appelle... Jogging International, c'est bien un nom bien français ça. Et le sous-titre, c'est le magazine numéro 1 du plaisir de courir et de la forme. Alors c'est marrant parce qu'il y a un article dans le numéro, c'est le numéro quoi ça? Le numéro 277, je sais plus de quel mois, ça doit être du mois dernier ou du mois d'avant, et qui s'appelle Prenez votre santé en main, courez. Et alors, il y a un petit encart là-dedans. Alors, je vais vous le dire parce que j'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Ça s'appelle La course antidéprime. Alors, des études comparatives du traitement de sujets dépressifs par une molécule antidépressive de référence et par le jogging ont montré qu'après 4 mois, les résultats sont identiques dans les deux groupes. Hein? C'est déjà intéressant ça. Je continue l'article. Par contre, un an après, 33% des sujets traités par un médicament rechutent, alors que 92% des joggeurs ne rechutent pas. Et voilà, c'est QFD. Alors je continue l'article. Cela semble être dû au fait que les sujets ayant été mis à la course à pied ne l'interrompent pas. La course à pied permet de bien guérir un épisode dépressif, mais permet également de l'éviter. L'exercice a un impact sur le cerveau émotionnel et sur la sécrétion d'endorphines. Il stimule le mécanisme naturel du plaisir, ce qui explique le besoin et le désir de ne pas l'arrêter. Cet effet ne peut être obtenu que par une pratique régulière, mais une fois atteint, ce besoin crée une certaine dépendance. Donc voilà, si vous êtes déprimé, allez faire un tour dans un magasin de sport pour vous acheter une bonne paire de chaussures et vous allez voir, ça va coûter moins cher la sécurité sociale et puis vous me remercierez par la suite. Donc je me suis dit que j'allais vous lire cet article parce que je trouve c'est, enfin c'est, j'ai trouvé ça assez rigolo puis ça illustre très bien un peu moi ce que je pense de la course à pied. Voilà, donc on est rendu au plat de résistance de ce PCC, donc avec l'interview de ma petite personne par Diane Trudel sur la radio Chat FM. C'est parti.
Ici Diane Trudel qui vous reçoit pour la deuxième heure de Vie de banlieue au FM 103.3. Et en deuxième heure, ce soir, eh bien, c'est notre chronique français de Montréal, la chronique chérie de Éric Clément, qui a pris naissance il y a déjà un peu plus d'un an, Éric Clément.
Presque
hein?
2 ans, Diane.
Presque 2 ans déjà.
C'est
Ah
fou,
mon
hein?
Dieu, c'est fou, le temps passe tellement vite. Et c'est suite à la publication de votre livre, Éric, qui s'appelle Français de Montréal, un livre publié aux éditions La Presse. Et je le dis régulièrement, mais je pense qu'il faut le répéter, c'est un magnifique livre qui montre Montréal sous le regard des Français qui se sont installés ici et sous le regard de Bertrand Lemeunier,
oui.
Photographe associé à vous dans cette grande aventure et qui a fait les photographies de cette belle ville qu'est Montréal au fil des 4 saisons qu'on aime beaucoup. Parce que je vous ai vu à TV5 récemment et vous aimez toutes les 4 saisons. Et en parlant de TV5, ben, on va parler de l'invité de ce soir, Pierre Journel, qui était aussi à cette émission, une émission qui s'appelle ou café et qui était diffusé donc sur TV5 dimanche matin et à laquelle vous avez participé. Un tournage qui s'est fait à la fin du mois d'août et vous avez tous deux participé à cette émission. Et
Oui.
Éric, vous avez décidé d'inviter Monsieur Journel ce
Ben oui,
soir.
ben oui, j'ai rencontré Pierre Journel à cette occasion-là. Donc c'était une bonne façon de le présenter à nos auditeurs, puisque bon, Pierre est arrivé avec sa conjointe et son premier fils il y a 10 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Alors lui, ça fait 10 ans. C'était drôle. Et Pierre Journel est un gars intéressant, pas seulement pour le travail qu'il fait, mais aussi pour le hobby qu'il a. Il fait du podcasting, qu'on dit en québécois, de la balado-diffusion. Donc, il a un créé un podcast qui s'appelle le podcast de ma cabane au Canada, qui est lepcc.net, si deux éditeurs veulent regarder en même temps qui nous écoutent. C'est un système qui permet finalement d'enregistrer des émissions, un peu comme à la radio, mais sur Internet. Donc, on va parler de ça ce soir avec Pierre.
Oui, on va voir plus précisément qu'est-ce que c'est un podcast ce soir avec vous, M. Pierre Journel. Mais Pierre Journel, bon, je vais vous demander d'entrée de jeu, pourquoi vous avez décidé il y a 10 ans de vous installer ici à Montréal?
Bah écoutez, c'est une grande histoire en fait. On a fait notre voyage de noces ici en 95 et puis l'idée a fait son chemin par la suite. Et moi, de par mes expériences professionnelles à l'époque ou par les voyages touristiques, j'ai toujours eu envie d'aller à l'étranger. Donc professionnellement, ça s'est présenté de pouvoir avoir des missions de quelques semaines à l'étranger, mais rien de longue durée. Donc je me suis dit au bout d'un moment, bah, puisque l'étranger ne vient pas à moi, allons à l'étranger. Puis le Canada, le Québec représentaient, en tout cas vu de France, une sorte de compromis entre les États-Unis et puis l'Europe, quoi. Donc c'est un peu le début de l'histoire, c'était comme ça.
Est-ce que vous aviez voyagé beaucoup avant? Est-ce que vous et votre épouse aviez le goût du voyage à
ce
point?
Oui, tout à fait. Ouais. En tant que touriste, on est allé plusieurs fois aux États-Unis, on avait fait des voyages en Chine, enfin bon, un peu partout en Europe. Donc c'était un désir d'aller à l'étranger. Moi, j'avais fait des stages au Japon aussi. Et puis c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que c'est que en travaillant vraiment dans un pays qu'on arrive à le découvrir, quoi. Parce que on découvre un pays, évidemment, le côté touristique, quoi, mais c'est qu'un côté du pays, quoi.
Oui, c'est souvent plus intéressant de s'installer pour quelques semaines et d'avoir l'impression de travailler, justement, parce qu'on a l'impression d'y vivre vraiment. C'est plus authentique.
Oui, tout à fait. Ouais.
Maintenant, comment ça a été l'intégration au départ? Parce que lorsque vous avez décidé de vous installer, vous n'aviez pas nécessairement trouvé d'emploi tout de suite à Montréal. Alors, comment ça a été la recherche d'emploi, l'intégration?
L'intégration, ce qui se passe avec le fait d'arriver au Québec, c'est que comme on parle la même langue, et puis même si on arrive avec un esprit qu'on veut très ouvert, on a de toute façon certains préjugés par rapport à la vie québécoise, parce que par définition, on n'a jamais vécu ça. Donc, il faut un peu mettre à l'épreuve de la vie de tous les jours ces fameux préjugés. Et puis, bon, il faut trouver ses marques. Et comme on a l'impression de connaître le Québec, on fait des erreurs probablement qu'on ne ferait pas dans un pays qui parlerait anglais, italien, allemand ou espagnol ou autre, quoi. Donc, faut vraiment oublier très vite se rappeler sans arrêt qu'on est dans un nouveau pays et puis que c'est une culture qui est différente, des références qui sont différentes, des manières de travailler, de vivre qui sont différentes. Donc il y a une intégration à faire qui n'est pas plus rapide, même si c'est un pays francophone, que dans un autre pays qui ne le serait pas, quoi.
Tout à fait, il y a d'autres coutumes, d'autres façons de faire, et même si c'est la même langue, ce n'est pas nécessairement aussi facile comme la question de la garderie. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous aviez un enfant, maintenant vous en avez trois. Trois garçons qui ont maintenant 10 ans, je crois, 6 ans et 3 ans.
C'est ça.
Et donc à l'époque, le plus vieux avait à peine quelques mois. Et vous avez eu de la difficulté au départ à trouver une garderie. Et même ici, nous, Québécois que nous sommes, nous savons que c'est difficile. Donc, même avant de tomber enceinte, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui réservent leur place à la garderie. Alors, c'est dire que c'est difficile de se trouver une place. Donc, ça a dû changer votre vie.
Ça a même représenté quasiment le tournant entre je ne dirais pas la différence entre l'échec puis la réussite de l'immigration, mais presque, parce qu'au début, donc on est arrivé en août 97, moi j'ai trouvé du travail très rapidement, et puis Carole, mon épouse, gardait Tanguy, notre premier garçon, et il n'y avait pas de garderie, donc il n'y a pas de secret, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas d'activité, on ne s'intègre pas, et puis c'est très difficile. Donc on s'est effectivement inscrit à toutes les garderies aux alentours, pour essayer de voir un peu les solutions, puis ça a duré facilement 6 à 12 mois avant qu'on puisse avoir une solution permanente en garderie. Et puis du jour au lendemain, quasiment, où Tanguy a pu être en garderie, que mon épouse a pu commencer à faire une recherche d'emploi, puis elle a trouvé du travail très rapidement, là, à partir de ce moment-là, notre immigration a vraiment pris un tournant beaucoup plus positif. Parce qu'on était rendu à une époque, moi je me rappelle, c'était aux environs, ça faisait 18 mois qu'on était ici, où moi, donc, j'avais déjà fait une partie de l'intégration parce que j'avais des rapports professionnels tous les jours, etc. Carole, bon, était toujours, entre guillemets, poignée avec notre petit garçon. En plus, le premier hiver, on est arrivé, c'était l'hiver du verglas. Tanguy, il a enchaîné otite sur otite. Enfin, bon, vraiment, c'était un peu rock'n'roll.
Oui.
Et bon, moi, je lui ai dit, bah, écoute, on n'est pas venu, on n'est pas, on n'a pas quitté la France parce qu'on était malheureux. On n'est pas venu ici pour être malheureux. Si on est malheureux, bon, ben, on repart, on plie les gaules et puis on s'en va, quoi. Et puis, c'est un peu après que, justement, on a eu cette place en garderie et puis que là, hop, là, notre intégration a pu vraiment progresser. Ouais.
Donc, vous vous êtes trouvé du travail vous-même quand même rapidement ici.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique et donc on avait fait une sorte de pseudo voyage d'études en 96 pour... moi, j'avais envoyé quelques CV puis j'avais organisé quelques rendez-vous pour rencontrer des chasseurs de tête pour évaluer un peu ce que valait mon CV, mon expérience, si vraiment j'allais trouver du boulot rapidement. Tous m'ont donné un feedback assez positif pour me dire, bon, bah oui, tu trouveras du boulot très vite. Il se trouve que c'est pas ces gens-là qui m'ont embauché qu'on est revenu l'année d'après. Mais effectivement, moi, j'ai en 2-3 semaines, j'avais 2 ou 3 offres, donc j'ai travaillé très vite, quoi.
On était dans les années avant l'an 2000, donc il y avait beaucoup de besoins en informatique.
Bah, le marché de l'emploi est très, très dynamique de base, beaucoup plus dynamique qu'en France, parce que le poids de la législation est beaucoup plus faible. Mais effectivement, on était dans la période pré-en 2000, où il y avait une demande très, très forte, bah, qui reste encore assez forte, mais qui était très forte à l'époque au niveau informatique, ouais.
Maintenant, votre épouse s'est trouvée du travail aussi quand même rapidement après avoir trouvé une place en garderie pour votre premier enfant. Donc, dans quel domaine elle s'est installée?
Ben, elle travaille dans une entreprise qui est un grossiste de produits pharmaceutiques. Elle travaillait chez Auchan en France, qui est un peu l'équivalent de Provigo. Et ils cherchaient quelqu'un qui avait à la fois une expérience un peu logistique et qui connaissait un peu le marché de la distribution, quoi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que moi, bon, j'ai un peu changé de voie maintenant. Je suis beaucoup moins en informatique, alors qu'elle n'était pas du tout en informatique. Maintenant, elle est plutôt chef de projet, et moi, plus du tout, quoi. Donc,
Alors, vous avez changé un peu les rôles. Mmh. Maintenant, on va parler de votre carrière ici, évidemment, de votre travail qui a évolué au fil des 10 années où vous vous êtes installé ici, comme vous le disiez tout à l'heure. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans le domaine commercial. On va voir que vous êtes chez L'Oréal maintenant et dans le domaine commercial et comment vous exercez ce travail. On va voir ça tout de suite après ceci. Et dans le dossier que Éric Clément m'a préparé, il dit que vous trouvez la vie beaucoup plus saine ici qu'à Paris. Pourquoi?
Bah, il y a déjà le fait que nous, on habite sur le plateau, puis moi, je travaille au centre-ville. Donc déjà, mon temps de parcours entre le domicile et mon lieu de travail est très court, quoi. En général, Carole, mon épouse, me dépose, donc je suis au travail en 20 minutes. Puis le soir, je rentre en métro, je vais chercher les enfants à l'école et ça me prend aussi 25 minutes. Donc à Paris, c'est quasiment de la science-fiction, ce genre de temps de trajet. Ou alors... faut vraiment, enfin, c'est très difficile parce que le coût du logement est très élevé, etc. Donc, on parle beaucoup plus de temps de transport de 1 à 3 heures par jour, quoi, aller-retour, quoi. Donc, ça, c'est pour ça que je dis que là, on a une qualité de vie ici qui serait impossible d'avoir à Paris. Donc, là, du coup, bon, bah, on est moins stressé parce que on n'a pas ce poids du temps de transport. Bon, il y a un côté rythme un peu à Montréal qui est beaucoup moins rapide, beaucoup moins stressé que Paris. C'est quand même pas le même ordre de grandeur et qui donne tout un tas de facteurs qui amènent une qualité de vie très, très agréable.
Mais il faut quand même dire que tu habites sur le plateau et que si tu habitais à Laval ou à, je sais pas moi, à Vaudreuil-Soulanges, ça serait plus difficile pour aller à
Centre-Ville. C'est sûr. Mais nous, c'était un parti pris dès le début. Moi, je suis un Parisien de Paris. Je sais que les Parisiens ont très, très mauvaise réputation, mais j'essaie de corriger un peu ça. Mais bon, pour nous, il était hors de question, de toute façon, d'aller habiter en dehors de l'île. Moi, il me faut de la ville de toute façon. Et puis, je voulais pas de toute façon aller en dehors de l'île, quoi. Donc moi, aller habiter à Laval pour travailler au centre-ville ou sur la rive sud, trop loin, là, c'était impensable. Donc ça faisait partie du cahier des charges même d'origine.
Oui, et vous, dans l'émission Thé ou Café, où vous avez passé dimanche dernier, vous disiez, vous et Carole, que le mode de vie aussi, le fait qu'on fasse plus de sport est très important. Vous deux, vous êtes très sportifs aussi.
Mm-hmm. Bah, c'est sûr que Encore une fois, là, le fait que les temps de transport soient moins importants, bon, bah, ça dégage plus de temps pour la journée de travail, mais aussi pour le reste, quoi. Donc, du fait que on est capable de terminer plus tôt sans se faire regarder de travers. J'ai en France, Carole, mon épouse, donc travaillait chez Auchan. C'était des journées de fou de 10, 12 heures, 6 jours sur 7. C'était infernal. D'ailleurs, je dis souvent en plaisantant que c'était la seule solution que j'ai trouvée. C'était l'immigration pour la faire quitter Auchan, parce que c'est quasiment comme rentrer en religion.
Auchan, c'est un centre commercial, on peut dire.
Voilà, c'est ça. Et donc, moi aussi, j'avais des journées qui étaient importantes. Et on a trouvé une qualité de vie ici qu'on n'a pas à Paris. Et oui, on a le temps de faire plus de sport. Et il y a aussi un rapport avec la nature, avec le plein air qu'on n'a pas à Paris, quoi, c'est sûr.
Par contre, la culture de Paris vous manque?
Bah, c'est sûr qu'on a pris un... Bon, il a fallu qu'on s'adapte. Elle nous manque d'un certain côté, mais elle nous manque plus parce que, bon, finalement, notre immigration a coïncidé avec l'arrivée de Tanguy, notre premier garçon. Donc, de toute façon, notre vie a changé. On est passé d'une vie de couple à une vie de famille. Donc, on n'a de toute façon pas les mêmes activités. Mais c'est sûr, bon, bah, quand on est habitué un peu à la vie trépidante de Paris, où on n'a que l'embarras du choix pour aller au théâtre, au cinéma ou les expositions... Quand on est arrivé à Montréal, bon bah c'est sûr qu'on a trouvé qu'il se passait pas grand-chose, quoi. Mais faut tout de suite que je corrige ça, parce que il y a par exemple des choses qui se passent ici, qui se passent en tout cas pas à Paris, puis presque nulle part ailleurs. Hein. Il y a un savoir-faire ici incroyable au niveau des festivals. Hein. La période du Grand Prix, grosso modo du 15 juin jusqu'au 15 août, quoi, ça n'arrête pas, quoi. Hein. Et je veux dire, moi je suis un fan de musique, et j'ai passé des soirées mais inoubliables au festival de jazz, au Francofolie principalement, quoi. J'aime bien aussi le festival Juste pour Rire, mais c'est vraiment les deux festivals musicaux là que j'adore. Et puis il y a, je veux dire, moi je suis musicien, et puis de voir ces concerts en extérieur qui sont organisés, c'est toujours très très précis, le son est parfait, là, c'est un vrai régal. Donc on ne peut pas comparer Paris et Montréal au niveau de la vie culturelle, mais il y a des événements comme ça là, qui sont fabuleux.
Unique.
Quoi,
hein.
Unique, ouais.
Vous êtes musicien, vous dites, est-ce que vous avez le temps de jouer encore malgré votre travail et les enfants?
J'aimerais avoir plus de temps de jouer de la guitare que je le fais. Il y a quelques temps encore, je jouais dans un groupe. Bon, il se trouve que ça s'est pas prolongé, mais enfin, avec l'informatique maintenant, c'est très facile de continuer à jouer et puis d'avoir une interaction, même à travers le podcasting. Ça m'a permis de rencontrer d'autres musiciens avec lesquels on a un peu de sorte de collaboration musicale. Ils m'envoient des morceaux sur lesquels je joue, puis on les échange de cette manière. Donc oui, je continue de jouer. Ouais.
On va en parler de ce podcasting, mais tout d'abord, on s'en va à la pause et on revient en musique avec Juan Carlos Cáceres.
Donc voilà, c'était la première partie de cette interview. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc comme je disais au début, hein, j'ai fait un petit montage pour supprimer les choses, soit qui étaient un petit peu longues ou que bon, je trouvais qu'elles étaient moins bien ressorties. Mais j'ai laissé à 80% le contenu original. Donc la semaine prochaine, vous aurez droit à la deuxième partie où là, on parle un peu plus spécifiquement de podcasting. Et puis voilà, donc le culte de la personnalité du PCC, ça sera le volume 2, le volet numéro 2 la semaine prochaine. Donc nous sommes maintenant dans la partie feedback. Alors j'étais assez gâté au niveau feedback. En fait, il y a Mathieu qui m'a envoyé un email, je pense dans la semaine, qui me dit « Ah tiens, c'est bien ta revue d'actualité, pourquoi tu parles pas du 400e anniversaire de la fondation de Québec ?» Je dis « Bah oui, tu as raison, tiens, pourquoi j'en parle pas ?» Donc du coup, évidemment, ça n'a pas raté, ni une ni deux. Je lui ai dit « Bah tiens, est-ce que tu pourrais me faire un feedback sur le sujet ?» Donc voilà, merci beaucoup Mathieu, et je te passe le micro à toi.
Bonjour Pierre, je t'envoie ce commentaire audio pour faire suite à ta rubrique sur l'actualité de la région de Québec. Or, il me semble intéressant de te parler à toi et aux auditeurs d'un événement qui va arriver dans quelques mois dans la ville de Québec. Je parle bien sûr des festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec. Or, pour faire un rappel, Québec a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain, donc l'année prochaine, en 2008, ça fera 400 ans que la ville fut créée. Pour cela, je vais vous parler des activités qui vont se dérouler tout au long de l'année 2008. Bien sûr, j'ai fait une sélection de celles-ci. Donc, les festivités vont commencer le 31 décembre 2007, place Youville, dans le Vieux-Québec, avec un spectacle avec du feu d'artifice, effets visuels et montage sonore. Donc comme je l'ai dit auparavant, Place Youville, c'est dans le Vieux-Québec, donc ça va être un très beau cadre pour ce premier spectacle. Ensuite, en février, nous retrouvons le Carnaval de Québec, qui est un carnaval très populaire, surtout pour un carnaval d'hiver. Nous retrouvons aussi l'activité comme Pentathlon des Neiges, donc c'est 4 jours d'activité hivernale, avec du vélo, de la course à pied, du ski de fond, de la raquette et du patin à glace. En mars, vers la mi-mars, on retrouve la Coupe du Monde de Surf des Neiges de Québec. Alors pour cela, on va organiser des événements au centre-ville de Québec avec du snowboard urbain le soir, avec des obstacles alliés multimédia et musique. En mai, pour la première fois au Canada, nous avons les championnats mondiaux de hockey. Alors c'est un tournoi qui regroupe les 16 meilleures équipes au monde. Comme je vous dis, c'est la première fois que c'est présent au Canada. Et on retrouve ça dans la ville de Québec et d'Halifax. C'est du 1er au 18 mai. Ensuite, toujours en mai, nous avons la Coupe du Monde de Soccer International du 400e. Alors c'est un tournoi de soccer regroupant des jeunes espoirs du Québec, de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. C'est des jeunes de moins de 17 ans. Il y aura deux compétitions, la compétition pour les garçons et la compétition pour les filles. En juin, plusieurs activités au programme. Alors du 5 juin au 26 octobre, une exposition thématique, le Louvre à Québec. Alors cette exposition vise à faire découvrir la diversité et la qualité des collections de l'ensemble des départements du Louvre. Du 13 au 15 juin, il y aura un spectacle aérien international. Alors ce spectacle est effectué par les équipes nationales des pays fondateurs de cette discipline. Et pour terminer, en juin, du 15 au 22 juin, le 49e Congrès Eucharistique International. Alors les organisateurs aimeraient avoir la présence du pape Benoît XVI, mais celui-ci n'a toujours pas confirmé sa présence. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. En juillet, du 4 au 5 juillet, le championnat du monde du double Ironman. Alors le double Ironman, c'est une épreuve qui comporte 7,6 km de natation, 360 km de vélo et 84,4 km de course à pied. Du 10 au 20 juillet, il y a la Transat Québec-Saint-Malo. Alors c'est une transat qui a lieu tous les 4 ans avec les meilleurs coureurs professionnels de voiliers, multicoques et monocoques. En août, du 14 août au 24 août, il y a le Festival international de musique militaire de Québec. Là aussi, on retrouve plusieurs pays. Le 22 août, Céline Dion participera à un grand spectacle sur les plaines d'Abraham. C'est un spectacle gratuit avec plusieurs grands artistes. Donc c'était tout l'événement de cette semaine qui a été annoncé le 12 novembre. Comme quoi Céline Dion confirme sa présence pour ce spectacle. Le 24 août, on retrouve le Marathon des Deux Rives. Donc le départ se fait à Lévis, une ville qui se trouve sur la rive sud du fleuve. Et l'arrivée se fait Gare du Palais à Québec. Bien sûr, nous espérons voir Pierre courir. En octobre, le 19 octobre, le Cirque du Soleil est à Québec et ils font une représentation. Il me semble que c'est un spectacle unique pour le 400e, c'est-à-dire que cette représentation ne se refera pas ailleurs. Donc je vais laisser un petit lien pour avoir plus d'informations à Pierre qui pourra vous mettre sur le site. Puis j'aimerais bien terminer avec un petit mot sur le hockey, qui est le sport le plus populaire au Canada. Pourquoi? Parce que deux équipes canadiennes sont en forme ce début de saison. La première, c'est les Sénateurs d'Ottawa, qui sont premiers de la conférence Est. Et puis bien sûr, les Canadiens de Montréal, qui sont troisième ex aequo dans la même conférence. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup Mathieu hein, pour ce programme détaillé des festivités du 400e anniversaire de la fondation de Québec. Hein. Ça donne bien envie, je trouve ça intéressant là, évidemment qu'il y ait des festivités tout au long de l'année. Écoute, je note bien ton invitation pour le Marathon des Deux Rives le 24 août. Je vais aller noter ça tout de suite dans mon Google Calendar. Après, tout dépend comment l'été va s'organiser. C'est encore très très flou pour l'instant. Mais en tout cas, je doute pas que ça va être assez grandiose, hein, toutes les festivités. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, hein, Québec, hein, c'est un côté, c'est à la fois du, ça ressemble à Saint-Malo, ça ressemble à Saint-Malo pour le côté ville fortifiée. C'est donc puis c'est au bord du Saint-Laurent, donc c'est pas au bord de la mer, mais le Saint-Laurent à cet endroit-là est très large, donc c'est les montagnes. Évidemment, ce côté très québécois avec le froid quand on y va en hiver, mais c'est aussi très beau l'été. Enfin bref, moi j'aime beaucoup Québec. Je sais pas si j'y vivrais parce que c'est une ville qui est toute petite et puis qui est pas un pôle économique très important. Je vais peut-être pas me faire beaucoup de copains en disant ça, mais à part évidemment s'il y a quand même quelques industries, il faut pas exagérer, mais il y a surtout, bah, évidemment, tout le gouvernement provincial, le parlement du Québec qui est là-bas. Mais sinon, c'est quand même relativement restreint. Mais par contre, c'est une région qui est superbe et qui est aux portes d'une des régions que moi je trouve les plus belles, là, qui est Charlevoix, donc au-dessus de Québec jusqu'à Tadoussac. Donc voilà, merci beaucoup encore Mathieu pour ça. Tu as bien raison là de noter le début tonitruant des sénateurs d'Ottawa. Je lisais dans le journal l'autre jour que ils ont eu, je sais plus, genre 14 ou 16 matchs d'affilée sans défaite. Ils viennent de perdre, je pense, la semaine dernière. Mais ils sont encore effectivement largement en tête. Et nos Canadiens de Montréal se débrouillent plutôt bien pour l'instant. Donc, pour vous, que ça dure. Donc voilà, j'ai un autre feedback que j'ai reçu, cette fois de Patrick, sur un sujet tout à fait différent, puisqu'il nous parle de Thinking Rock, un logiciel gratuit pour appliquer la méthode de GTD, Getting Things Done. Donc à toi, Patrick, je te vois le micro.
Salut Pierre, c'est Patrick de Belgique pour un petit feedback audio. Ça fait pas mal de temps maintenant que j'écoute le PCC de façon tout à fait anonyme, et puis aujourd'hui je me lance, je te laisse un premier message audio. Je reviendrai aujourd'hui sur un sujet que tu as abordé il y a pas mal de temps, il s'agit du GTD, Getting Things Done, un concept que je ne connaissais pas et que j'ai découvert donc à travers le PCC. Je dois reconnaître que je n'ai pas pris le temps ni le courage de lire le livre de David Allen. Mais en contrepartie, je me suis promené pas mal sur le web pour essayer de piocher à droite à gauche différentes informations et mieux comprendre quand même les concepts du livre. Au cours de mes recherches sur le web, j'ai découvert différents logiciels qui permettaient de mettre en application ces concepts et je me suis personnellement arrêté sur Thinking Rock, une application que j'utilise maintenant au quotidien depuis plusieurs mois déjà. Thinking Rock est donc une application qui est gratuite, qui est ouverte et développée en Java. Elle est donc multiplateforme. Du coup, je l'utilise chez moi sur mon PC sous Linux, au boulot sur le PC sous Windows, et tu pourras, si ça t'en dit, l'essayer sur ton Mac également. Comme point positif principal, je retiendrai l'ergonomie de son interface graphique. Elle est relativement simple, peu de fioritures, ce qui permet de ne pas passer son temps à chercher une fonctionnalité ou un bouton et d'aller droit à l'essentiel. Comme point négatif, je regrette que pour la version TR2 Epsilon, donc la version courante, il n'y ait pas encore de possibilité de sauvegarde distante. Donc si on veut l'employer sur différents postes, on est condamné, entre guillemets, à se promener avec les données sur une clé USB. Quelques mots maintenant concernant la prise en main de Thinking Rock. Au démarrage de l'application, on arrive sur un premier écran qui reprend un schéma d'utilisation conforme aux notions GTD, la définition des contextes, des sujets, la collecte des idées, des tâches. La planification de celles-ci, est-ce qu'elles sont réalisées au plus vite, pour une date bien précise, dans un futur plus lointain non encore planifiable? Est-ce que c'est juste à conserver pour information, ou est-ce que l'action ne peut être exécutée qu'à partir du moment où on a reçu le feedback de quelqu'un? Ces différentes tâches peuvent également être collectées et regroupées en projets. Mes premiers pas avec Thinking Rock ont été assez décourageants. En effet, la liste de tâches s'allongeait de plus en plus jour après jour. J'avais une planification un peu fort lourde, si bien qu'en fin de journée, je devais replanifier pas mal de tâches pour le lendemain et j'avais l'impression que peu de tâches avaient été complétées sur la journée. Mais jour après jour, cette liste de tâches s'est résorbée et aujourd'hui, je trouve ça assez motivant en fin de journée de voir une liste de tâches quasi vide. Sur le plan professionnel, j'ai trouvé aussi très intéressant la possibilité d'appliquer des filtres sur les tâches effectuées, ce qui permet comme ça, en fin de semaine, de voir très clairement ce qui a été fait et de les insérer pour le reporting. Voilà, pour conclure, je dirais que ThinkingRock est une application assez intéressante, en tout cas que je trouve intéressante et qui me convient bien. Assez parlé pour moi, je te rends le micro Pierre pour la suite du PCC.
Merci beaucoup Patrick pour ce feedback. Alors écoute, je suis vraiment ravi, hein, très fier même de t'avoir fait découvrir la méthode de GTD. Bon, c'est dommage que tu n'aies pas lu le livre, mais ceci dit, si tu t'es beaucoup renseigné sur l'internet, tu n'as probablement retenu la substantifique moelle, et en particulier si tu es arrivé à changer ta méthode de travail pour utiliser un logiciel comme ThinkingRock. Là, je te tire mon chapeau. Ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me surprend le plus en fait dans ton feedback, c'est que tu sembles être capable de. Tu sembles avoir pu organiser tout avec un seul outil, donc et ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Alors peut-être que dans ton activité professionnelle, justement, ça se marie très bien, mais moi je me faisais la réflexion que je vois pas comment je pourrais avoir un seul outil pour gérer pour gérer les deux. Donc je sais que à mon boulot, bon bah j'ai un en fait j'utilise un simple fichier Excel hein, pour lister tous les projets que j'ai en cours en fonction de l'urgence, et ce qui me permet de pas oublier de choses. En fait, mes deux principaux outils, c'est celui-là et puis la messagerie. Donc la messagerie, comme je reçois une centaine de messages par jour, il faut que je sois extrêmement rigoureux dans la gestion de ma messagerie. Mais réciproquement, il faut que je fasse extrêmement attention à ne pas faire que de la messagerie, sinon je pourrais très bien passer mes journées entières dans Outlook et puis sans rien faire d'autre. Donc j'essaie de le gérer un peu sous forme de batch, et puis ce sur quoi j'ai quelque chose à faire, je le fais. Si j'ai pas le temps, et ben je le laisse dans mon inbox. Les trucs que je traitais, ben, je les enlève de mon inbox pour en essayer d'en avoir le moins possible. Malheureusement, j'arrive pas à atteindre le nirvana du inbox zéro. Loin de là, là, je pense que là, ça fait au moins 2-3 semaines que je tourne environ en dessous de entre 50 et 100 messages dans mon inbox. Alors, j'essaye de me déculpabiliser en me disant que c'est un peu le reflet d'une période extrêmement occupée en ce moment, parce que c'est la fin de l'année. Mais parce qu'il y a quelques temps, j'étais capable de descendre beaucoup plus bas que ça. Mais donc, en fait, je me sers vraiment d'une box comme d'une grande to-do, hein. Donc toutes les choses qui restent dans mon inbox, c'est des choses qui ont quand même un degré d'urgence assez important et qu'il faut que je traite. Le reste, si ça n'a pas vraiment de degré d'urgence, je le retire de mon inbox, je le mets dans un autre folder, ce qui fait que je ne l'ai pas sous le nez sans arrêt, mais je l'ajoute dans ma liste à part avec un niveau de priorité assigné pour le garder en mémoire et pour être. Enfin justement non, pour ne pas le garder en mémoire, mais pour en avoir une trace quelque part. Et comme je fais ma revue de cette liste plusieurs fois par semaine, et au moins en tout cas une fois le vendredi après-midi pour retirer ce que j'ai pu traiter, puis ajouter ce que j'ai noté sur des bouts de papier à gauche à droite, ça me permet d'avoir comme ça un outil pour piloter un peu mon activité. Donc c'est un peu la manière dont je m'organise au travail. Mais dans ma vie personnelle, en fait, j'utilise quoi? J'utilise un bête bloc papier là, qui est à côté de moi, sur lequel je note des choses un peu au fur et à mesure, et puis que je barre au fur et à mesure. Probablement que je vais passer ça sur un Google Document un de ces jours, ce qui me permettra de l'avoir partout. Et puis j'ai encore mon sempiternel Palm avec moi, puisque j'ai pas encore fait de passage à un outil style Touch ou iPhone, ce qui viendra peut-être, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Alors j'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur l'iPhone, qui n'en finit pas de ne pas arriver au Canada. La dernière rumeur en date, là, ça parle de janvier, mais il n'y a vraiment absolument rien de confirmé. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc voilà, si vous avez des feedbacks de votre côté sur la méthode GTD, là, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, donc qu'est-ce que j'ai reçu comme autre feedback? Il y a quelqu'un qui a signé sous le nom de KZI dans les commentaires sur le blog, qui disait qu'effectivement le gros problème de cette synchro avec iCal et puis les Google Calendar, c'est que c'est du à sens unique, c'est du sens unique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout maintenir dans ces Google Calendar et puis synchroniser sur iPod, Touch ou pas d'ailleurs, pour avoir une visualisation. Mais si vous faites une saisie à l'intérieur du Touch, évidemment, malheureusement, il ne synchronise pas dans l'autre sens. Donc tout à fait vrai. Nicolas, donc des rendez-vous création suite à à mon commentaire où je disais qu'il se faisait trop rare. Donc il a répondu sur un commentaire en disant que c'était parce que la vidéo multicaméra lui prenait beaucoup de temps, mais que ça devrait bouger bientôt. Alors Nicolas, tu m'envoies ravi. Il y a Alain, le fidèle Alain de Palmipod, donc qui a trouvé ça intéressant là, que je lui parle du double clic là, sur le bouton Home du touch là, pour faire apparaître le petit écran musique. Et voilà, qu'il a bien aimé la vidéo, le PCC vidéo auquel il a bien sûr participé. Et alors ce que je trouve rigolo, Alain, c'est que tu dis voilà, que c'est une référence pour de futurs geeks et un modèle d'interactivité comme on en rêve tous. Alors je suppose que tu fais allusion au fait que je suis assez chanceux d'avoir des auditeurs que j'arrive à engager au sens anglais du terme dans le podcast, puisque j'arrive à vous faire passer un peu de temps devant un micro ou devant une caméra pour m'envoyer des feedbacks. Donc effectivement, je m'estime assez chanceux et je suis vraiment toujours, hein, je le répète, hein, mais c'est toujours vrai, un vrai bonheur là, de recevoir vos feedbacks pour justement qu'on puisse faire vivre un peu l'émission de cette manière-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a Bruno qui m'a envoyé un email pour me parler de la Gibson qui s'accorde toute seule. Alors Gibson vient de sortir une Les Paul avec tout un tas d'électroniques embarquées, avec des mécaniques à servomoteur qui permettent d'accorder la guitare toute seule. Donc c'est un concept que j'avais déjà vu il y a quelques temps. Et enfin, d'ailleurs, qui avait été installé sur une Les Paul à l'époque. Je pense que Jimmy Page en avait fait plus ou moins la pub, mais c'était une véritable usine à gaz. Alors là, je sais pas. Sur le lien qu'il m'a envoyé, c'était pas indiqué le prix de la guitare, mais enfin, ça doit être assez mortel. Bon, mon avis par rapport à ça, mon côté geek triperait à mort là-dessus. Par contre, une guitare, normalement, une bonne guitare, ça doit bien tenir la corde. Il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. Hein. Et je sais de quoi je parle, puisque j'en ai quand même quelques-unes, hein, des guitares. Donc, bon, je peux imaginer les possibilités, parce que il semblerait que sur la guitare en question, vous pouvez tourner un bouton, puis hop, changer, passer d'un accord standard, un open tuning quelconque. Enfin bon, les possibilités sont sans fin. Mais alors, j'ose pas imaginer le. Ça doit être quand même relativement fragile, hein, comme machine, mais intéressant. Voilà. Il y a Gilbert aussi qui m'a posé un commentaire. Alors, je voulais qui ça le tente vraiment de switcher vers la machine. Bah écoute, je t'en prie, ça me fera plaisir de donner des conseils pour passer sur le Mac. Ah oui, alors voilà, il posait une question. Et alors, je vous lis le commentaire. Je fonctionne depuis plusieurs années déjà avec un PC sous Windows et je possède un Pocket PC qui contient tous mes contacts et mes courriels qui sont synchronisés avec mon PC. Ce que j'aimerais savoir avant de faire le changement du Pocket PC vers un iPod, c'est la compatibilité. Crois-tu qu'un iPod serait compatible pour se brancher un PC? Alors là, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Hein. Brancher un iPod sur un PC, oui, il n'y a aucun problème. Hein. On est quelques millions, vous êtes quelques millions à le faire. Moi, je le faisais avant d'acheter le MacBook devant lequel je vous parle actuellement. Donc ça marche sans problème. Par contre, tu peux pas vraiment comparer un Pocket PC avec un iPod. Hein. Fût-il un iPod Touch? Un iPod Touch s'en rapproche un peu, hein, mais. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a encore des fonctions PDA qu'on va retrouver à l'intérieur d'un Pocket PC qu'on n'a pas à l'intérieur d'un iPod Touch qui est quand même reste un iPod, c'est-à-dire pour visualiser des vidéos, regarder des photos, écouter de la musique principalement et qui commence à avoir des fonctions de PDA. Et je suis sûr que avec l'arrivée du SDK officiel je pense en février d'Apple, on va probablement avoir d'autres applications de tierce partie beaucoup plus riches. Hein, mais si tu as une certaine facilité à l'intérieur d'un Pocket PC pour rentrer des données, c'est sûr que l'ergonomie va être différente. Donc si vraiment tu veux remplacer un Pocket PC par un iPod, là, faut aller minimum vers un iPod Touch parce que les iPods classiques, si je dis pas de bêtises, ne permettent pas de faire de saisie, hein, de rendez-vous, hein, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de clavier, hein, même sous forme logicielle. Alors que le touch, bon, il a un grand écran et puis il a un véritable. Enfin non, c'est pas un véritable, un clavier virtuel. Donc pense bien à ça avant de penser faire le switch. Voilà, dis donc, je vous ai fait un PCC de la mort qui tue, hein, parce qu'on est rendu à 48 minutes. Il y a Sinshark aussi qui m'a envoyé une vidéo. Alors, je vais un feedback vidéo. Alors, là, c'est tu mets la barre un peu plus haut, parce que moi, il va falloir que je réponde à tout ça. Donc, je ferai ça un de ces jours. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir envoyé ça. Voilà, donc on est rendu à la fin. Pour réagir à ce podcast du samedi, c'est toujours pareil, donc le blog à l'adresse lepcc.net, l'adresse email pjournel@gmail.com. Voilà, donc faites pas de bêtises, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie du culte de la personnalité du PCC, et d'ici là, ne faites pas trop de bêtises. Ciao, bye bye.